Merci d'être un petit peu moins nombreux que d'habitude, mais on ne vous en veut pas. Pour cette dernière séance sur le travail dans notre série Rendez-vous de crise. Donc, nous avons déjà eu 3 séances sur différentes thématiques et ce soir, elle est consacrée aux maillons faibles. Alors comme ça, ça n'a pas l'air évident, peut-être on ne voit pas très bien ce que signifie cette expression maillon faible, mais justement, vous allez le découvrir avec nos 4 intervenants qui sont donc Philippe Ashkenazi. Je suis désolée, je commence par le monsieur. Simplement parce qu'il est le président et l'animateur de cette séance. Ce n'est pas pour une autre raison. Madame Anne Sonnet, Madame Catherine Marie et Madame Ulrike Schürkens. Je laisse le soin à Philippe Ashkenazi de les présenter de manière un peu plus précise. Et donc, je lui donne la parole.
Je vais faire une introduction très brève. Ensuite, on aura une présentation de chacune des intervenantes et puis un dialogue entre elles. Et puis, de manière suffisamment large, je pense au moins pendant 3 quarts d'heure, une discussion collective avec la salle. Donc effectivement, la question de maillon faible dans la société du travail, c'était ça l'annonce de la conférence, avec entre parenthèses femmes, immigrés, jeunes, seniors. Et effectivement, c'est ce que l'on va voir ce soir, avec tout d'abord une présentation donc d'Anne Sonnet qui va porter sur une comparaison entre la France et les autres pays de l'OCDE de la situation de l'emploi des jeunes et des seniors. Donc Anne Sonnet qui est économiste, c'est ça, hein, oui, on peut dire comme ça, la direction donc de l'emploi, du travail, des affaires sociales de l'OCDE. Dans un second temps, nous resterons toujours principalement en France avec donc Ulrike Schürkens, qui est une sociologue et une anthropologue de la HESS, donc plus particulièrement sur le cas des populations immigrées donc sur le marché du travail. Puis ensuite, donc, Catherine Marie, qui est une sociologue au CNRS et à l'EHESS, va, pour sortir d'une vision peut-être trop centré sur l'Hexagone, va nous projeter sur l'autre grand marché du travail européen, qui est celui de l'Allemagne, avec un focus particulier sur les femmes. Alors, ça peut paraître une forme de catalogue, on va faire les uns après les autres, de ces formes de maillons, mais je pense que de manière sous-jacente, il y a des interrogations qui sont très importantes sur ces populations. Déjà, si vous les ajoutez, en fait, c'est pas des minorités. Si vous ajoutez femmes, immigrés, plus seniors et jeunes, vous avez la majorité de la population du monde du travail, pas loin des 2/3, en fait. Et ensuite, je pense qu'il y a une petite provocation derrière le terme maillon faible, mais ça renvoie à différentes images que l'on peut avoir à travers à la fois la société, mais aussi dans le monde scientifique. Est-ce que finalement, ce sont effectivement des populations qui... vous voyez, un maillon faible, c'est quelque chose qui met en danger un système, qui fait qu'une chaîne peut rompre. Alors, est-ce que ce sont effectivement... à travers eux que la société rompt, que l'économie est mise en danger. On va souvent dire, voilà, c'est les seniors qui ont du mal à trouver un emploi, qui veulent partir à la retraite, etc. Ils mettent en danger, en quelque sorte, l'économie, disent certains. On va jusqu'à dire qu'une catégorie de population est dans la cistana. On peut avoir une autre interprétation qui est celle que finalement ces populations sont victimes d'un système. Et puis on peut aller plus loin et non pas les voir comme des maillons faibles, mais au contraire des maillons forts. C'est-à-dire que le monde capitaliste aujourd'hui ne survit d'une certaine manière qu'à travers le fait que ces populations soient en difficulté sur le marché du travail. Donc c'est pas uniquement un positionnement en quelque sorte idéologique, une vision idéologique du monde, mais par derrière une vraie interrogation scientifique sur ce qu'elle est la situation de ces populations et quelles en sont les conséquences ou bien les remèdes pour nos économies. Voilà, j'ai suffisamment parlé. Donc je passe la parole tout d'abord à Anne Sonnet, qui ne représente pas qui est OCDE, mais je ne pense pas que vous représentiez fondamentalement l'OCDE. Donc il nous parle des jeunes et des seniors, une première catégorie de population.
Merci beaucoup. Non, en fait, je suis ici et très contente d'être ici pour parler de nos analyses à l'OCDE, mais qui reflètent tout à fait la démarche que j'ai, justement pour dire que parmi les jeunes et parmi les seniors, il y a des personnes qui sont plus en difficulté, donc il y a des maillons faibles, mais qui sont plutôt des victimes. Et c'est un point de vue qui est beaucoup développé maintenant à l'OCDE, parce qu'on met beaucoup en avant les inégalités. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez le site de l'OCDE, il y a un document qui paraît sur les inégalités. On met beaucoup en avant, justement, tous ces aspects de crise sociale. Aujourd'hui, donc, on est une conférence sur le rendez-vous de crise. Progressivement, on a vu qu'on était passé d'une crise financière à une crise économique, crise de l'emploi et maintenant une crise sociale. Donc tout ça, c'est très important. Et notre secrétaire général en parle beaucoup. Alors, je vais parler des jeunes et des seniors parce que nous avons fait beaucoup d'examens à l'OCDE sur ce sujet. Donc je vais vous présenter rapidement ces examens. Ensuite, je vais faire quelques constats pour la France en comparaison des autres pays. Et puis alors, réfléchir sur quelles sont les actions prioritaires à mener pour justement aider ces maillons faibles. Voilà, d'abord pour les jeunes, nous avons fait un examen dont j'étais chef de projet entre 2006 et 2010. Ça veut dire que nous avons établi 16 rapports nationaux, dont celui de la France en 2009, sur des emplois pour les jeunes. Et ensuite, nous avons écrit un rapport de synthèse qui a résumé toutes les leçons que nous avons apprises de l'examen de ces 16 pays, donc avec un titre également important, « Des débuts qui comptent ». Et ensuite, nous avons continué à travailler sur ce sujet, notamment dans le cadre du G20 emploi, parce qu'il y avait un groupe de travail emploi dans le G20 qui a eu lieu notamment en France il y a quelques années, qui pour l'instant est en Russie. Et là, avec la collaboration du Bureau international du travail, donc le BIT, on a également continué à produire des documents. Et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur ce site à l'OCDE, Emploi Jeunes, vous trouverez des tas d'éléments et également beaucoup de mises à jour des chiffres. Pour les seniors, enfin, on dit en général les travailleurs âgés, ou alors, par exemple, en Australie, on dit les mature age workers, donc plutôt les travailleurs expérimentés, ça dépend un peu des pays. Nous avons fait également un grand examen au début des années 2000, entre 2003 et 2006, des rapports vieillissement et politique de l'emploi. Là, nous avons fait des rapports sur 21 pays, dont celui sur la France en 2005, et un rapport de synthèse avec un titre message, « Vivre et travailler plus longtemps ». Bon, d'ailleurs, Jean-Louis Hérault vient de publier une étude avec le même titre. Alors, étant donné que c'est très important, en 2011, on a notre comité, donc des 34 pays membres, a décidé de lancer un examen de suivi pour voir ce qu'il en est. Et une des premières interrogations, c'est savoir si les 21 pays que nous avons analysés avaient mis en œuvre nos recommandations. Donc là, sur le site également, donc travailleurs, c'est pas travailleurs sages, mais c'est travailleurs âgés, nous avons mis les notes où on dit si les pays ont bien fait ou pas, donc notamment la France. Et également, nous menons maintenant une nouvelle analyse plus centrée sur les entreprises. Savoir pourquoi les entreprises n'embauchent pas des seniors et ne les gardent pas, et tous les aspects, donc coûts, discrimination, productivité, salaire, etc., protection de l'emploi. Et on réexamine en profondeur 7 pays, dont la France. Et donc, pour l'instant, je suis en train de rédiger un rapport sur la France, à côté de la Norvège, Pays-Bas, Suisse, Danemark, Pologne et Belgique. Alors, quand on se place dans une dimension internationale, c'est intéressant de regarder le profil d'emploi selon l'âge. Et vous voyez donc en bleu foncé la France au cours de la période 2005-2011. Et vous voyez donc que par rapport aux pays les plus performants de l'OCDE ou est la moyenne des pays de l'OCDE. Il y a vraiment des extrémités basses en France, aussi bien pour les jeunes avant 25 ans et pour les seniors après 55 ans. Et vous regardez, vous pouvez voir en bas aussi le taux d'emploi en bleu pour la France. Et vous voyez que pour les 15-24 ans, il y a des pays qui font beaucoup mieux, donc les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark, l'Australie, le Canada, etc. Et des pays qui sont moins bien situés que la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, l'Espagne, la Pologne, la Belgique, dont je suis originaire. Et voilà. Donc, et vous regardez après les 60-64 ans, le taux d'emploi des Français est le plus faible des pays de l'OCDE. De même, il y a des pays, souvent les mêmes, qui ont des taux d'emploi très élevés. La Suisse, la Suède, les Canada. Si bien que un des premiers constats qu'on fait sur des données vraiment, on va dire structurelles ou des données de fond, c'est qu'il y a vraiment une corrélation positive entre le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors. Et vous voyez donc la France qui est marquée en rouge. La France est un des pays où le taux d'emploi des jeunes et des seniors est faible, mais il y a vraiment une liaison positive. Et on a vraiment maintenant l'idée que les jeunes et les seniors sont complémentaires sur le marché du travail et pas substituable, comme on a pu faire passer ce message dans les pré-retraites qui avaient été instaurées dans les années 80 pour dire un vieux, entre guillemets, doit partir à la retraite pour laisser sa place aux jeunes, ce qui ne semble pas avoir été efficace. Bon, passons maintenant aux jeunes. Voilà l'indicateur qu'on montre le plus souvent du taux de chômage des jeunes actifs. Et vous voyez que donc la France en rouge, c'est le taux qui est au-dessus de 18% depuis le début des années 80. Bon, ici, c'est jusqu'en 2011, mais en 2012, ça a encore progressé. Et vous voyez que c'est beaucoup plus élevé que les autres pays qui sont représentés ici, le Japon, les États-Unis, l'ensemble des pays de l'Union européenne et l'Allemagne. L'Allemagne, donc bleu clair, a un taux de chômage des jeunes de moins de 10%. La France est plutôt de l'ordre de 22%. Et vous voyez malgré tout que la situation était moins bonne encore pour les jeunes en France dans les années 90, qu'il y a eu une amélioration avant la crise et que, comme dans tous les autres pays, il y a eu une remontée avec la crise, mais ça reste toujours très élevé. Si bien que dans notre analyse entre 2006 et 2010, nous avons pu montrer qu'il y avait eu une amélioration sur le marché du travail des jeunes avant la crise, mais malgré tout, il y avait malgré tout toujours des problèmes d'insertion persistants pour certains groupes de jeunes, et ça dans tous les pays. Et nous avons appelé ces deux groupes, le premier groupe les jeunes laissés pour compte, et le deuxième groupe les débutants en mal d'insertion. Alors, les jeunes laissés pour compte, en fait, ce sont les jeunes qui cumulent les difficultés, les désavantages. Ils sont sortis du système scolaire sans diplôme, ils sont souvent issus de l'immigration, ils vivent dans des quartiers défavorisés, ils sont de minorités ethniques. Et ce qui est intéressant, c'est que cette catégorie existe même dans les pays les plus performants, genre le Canada. Au Canada, par exemple, ce sont les jeunes autochtones qui vivent dans des réserves et qui sont loin de tout. Ou bien en Australie, les aborigènes, même aux Pays-Bas, un pays très performant, les jeunes immigrés qui vivent dans les grandes villes comme Rotterdam et tout ça sont également des jeunes laissés pour compte. Et le deuxième groupe, c'est les débutants en mal d'insertion. Et là, c'est plus un groupe qui a émergé dans les pays européens, du centre de l'Europe, souvent liés au dualisme du marché du travail. Ce sont des jeunes donc, qui sont souvent diplômés, qui effectuent des allers-retours fréquents entre emploi temporaire, chômage et inactivité. Et justement, nous avons essayé de mesurer la taille de ces deux groupes. Le premier, donc le laissé pour compte, on a utilisé ce nouvel indicateur qui est énormément utilisé actuellement, c'est les NI, donc ceux qui sont ni dans l'emploi, ni dans l'éducation, ni en formation. En plus, nous avons pris ceux qui n'avaient pas le niveau bac parmi les NI, parce qu'il y a des NI aussi qui sont avec un enseignement supérieur, qui sont universitaires. Et puis, les débutants en mal d'insertion, on a analysé les jeunes ayant quitté le système scolaire et trouvé un emploi temporaire, mais n'ayant toujours pas d'emploi permanent deux années après. Si bien que voilà le graphique que nous avons pu publier avant la crise, hein, en 2005-2007. Vous voyez donc jaune et rouge, c'est la France. Et vous voyez que les deux groupes représentent à peu près 12,5% des 15-29 ans qui ont quitté l'école en France. Donc, il y a presque autant de groupes qui, des jeunes qui sont laissés pour compte du fait de cumul de handicap. Et l'autre groupe, c'est des jeunes qui ont du mal à s'insérer, surtout parce que le marché du travail fonctionne mal pour eux. Mais vous voyez que l'Espagne, même en 2000, à cette période-là, avait déjà beaucoup plus de jeunes en mal d'insertion parce qu'il y a vraiment énormément de contrats temporaires en Espagne. C'est très difficile de trouver un emploi permanent et c'est souvent lié, et souvent les jeunes restent chez leurs parents même après qu'ils aient 30 ans. Donc tout ça, c'est une analyse que nous avons faite et nous avons à ce moment-là mis en avant toutes sortes de dimensions, toutes sortes d'actions qu'il fallait mener, mais pas uniquement dans un seul domaine. Donc il faut être actif, il faut avoir une panoplie de mesures dans le domaine A, donc c'est plutôt les compétences acquises en formation initiale qui doivent correspondre aux besoins du marché du travail. Deuxièmement, rendre la transition de l'école à l'emploi moins abrupte. C'est tout la question des étudiants qui ne font qu'étudier et qui ne sont pas du tout préparés à entrer sur le marché du travail. C'est très différent dans les pays anglo-saxons où beaucoup d'étudiants travaillent en partie et surtout les employeurs reconnaissent cette expérience. Donc c'est un peu aussi tous les atouts de l'alternance qui permet aux étudiants d'acquérir une certaine expérience dans l'entreprise. Troisièmement, s'attaquer aux barrières à l'emploi des jeunes du côté de la demande. Donc il y a vraiment un problème du côté des entreprises qui offrent des emplois beaucoup trop précaires et pas suffisamment valorisés. Et alors, dernier point, donc, et ça c'est surtout pour les maillons faibles, rendre plus efficaces les mesures actives pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Donc voilà pour les jeunes. Passons maintenant aux seniors. Là, aux seniors aussi, donc on aime bien mettre les indicateurs de l'OCDE pour les 34 pays et montrer où se trouve le pays. Donc vous voyez que la France, en France, le taux d'emploi des 50-64 ans, donc c'est une définition assez large des seniors, mais c'est intéressant aussi de savoir qu'il faut agir tôt. Il ne faut pas attendre d'avoir 65 ans ou 60 ans pour être aidé. Donc 55% en 2011 et en dessous de la moyenne de l'OCDE, mais en progression depuis 2001. Vous voyez que également il y a une grande disparité entre les différents pays, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la Suède étant les pays où le taux d'emploi des seniors est le plus élevé. Et puis donc on a déjà vu ça d'autres pays dans l'autre sens. Mais il y a eu malgré tout une progression de l'emploi des seniors malgré la crise. Le grand problème pour les seniors, c'est le chômage. Et ça, vous l'entendez tous les mois lorsqu'on publie les chiffres de Pôle emploi. Le nombre de chômeurs de plus de 50 ans inscrits à Pôle emploi a doublé depuis 2008. Alors, cette façon de présenter à droite, c'est le taux de chômage globalement depuis le début de la crise, donc depuis 2007. Vous voyez que le taux de chômage, l'incidence du chômage de longue durée, donc ça veut dire de plus d'un an, a beaucoup augmenté. Et à gauche, vous voyez les différents groupes d'âge de chômeurs qui sont mis depuis 2007 en nombre de chômeurs enregistrés. Et vous voyez que la progression de taux de chômage, enfin des seniors au chômage, a énormément augmenté. Bon, il y a également, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu également une disparition de la dispense de recherche d'emploi. Et normalement, les chômeurs qui sont enregistrés, c'est ceux qui cherchent activement un emploi, mais il n'y a pas uniquement ça. Mais il semblerait donc qu'en même temps, il y a eu un maintien dans l'emploi des seniors, mais il y a eu une difficulté pour les seniors qui ont perdu leur emploi de retrouver de l'emploi et ils se retrouvaient au chômage parce qu'il n'y a naturellement plus tous les dispositifs de pré-retraite publique, etc., qui était là, et également un relèvement de l'âge de départ à la retraite. Donc tous ces éléments-là ont fait en sorte que pour ceux qui n'étaient pas maintenus dans leur emploi, la situation était difficile. Je ne vais pas m'étendre là sur ce graphique-là, mais c'est pour vous montrer aussi que pour aider les seniors, pour aider l'emploi des seniors, il ne faut pas agir uniquement sur justement l'âge de la retraite ou des éléments de protection sociale, etc. Mais il y a vraiment une dimension de valoriser le travail. Alors nous, on met souvent en avant aussi, et c'est reflété dans beaucoup d'enquêtes d'opinion de la part des seniors, c'est la retraite progressive, donc partir progressivement à la retraite. Mais pourtant, ça ne marche pas tellement, parce qu'en France, il n'y en a que 2000 qui sont dans ces dispositifs-là, alors qu'en fait, a priori, dans les enquêtes d'opinion, tout le monde dit « j'aimerais bien partir progressivement à la retraite », mais on se demande pourquoi ça ne marche pas mieux. Et puis alors, il y a les obstacles au maintien dans l'emploi et surtout au recrutement, donc il y a une discrimination selon l'âge, c'est évident. C'est pour ça que dans certains pays, il y a des CV qui sont anonymes. Il y a un problème salaire-productivité. Il y a vraiment des questions du côté des entreprises. Et alors, il y a l'autre dimension, c'est l'employabilité. Il faut vraiment faire en sorte que les seniors soient... qu'on maintienne leur employabilité même après 45 ans, etc. Parce qu'on voit que la formation professionnelle n'est plus offerte aux gens qui sont en fin de carrière. Et il y a très peu d'aide aussi dans le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, pour les seniors. Il y a bien des clubs de recherche d'emploi, des choses comme ça, mais spontanément, étant donné aussi le chômage de masse qui existe actuellement, on va aider plutôt les plus jeunes. Et alors, il faut surtout améliorer les conditions de travail, parce qu'il faut faire en sorte que le travail soit le moins pénible possible et qu'il puisse être maintenu plus longtemps. Alors, ça, c'est un graphique qui termine mon exposé. C'est un graphique qu'on va présenter dans la prochaine publication de l'OCDE sur les perspectives de l'emploi. Et là, vous voyez ce qui se passe entre 2007 et 2011. Et là, on regarde, et ça, c'est une bonne transition pour les autres présentations, parce que vous voyez également les femmes. On regarde ici la décomposition du taux de non-emploi. Et donc, il y a le chômage de longue durée, le chômage de courte durée et l'inactivité. Et vous voyez que au milieu, quand vous regardez les jeunes et les seniors, la situation est tout à fait différente. Pour les jeunes, c'est surtout du chômage de courte durée qui a augmenté et un petit peu l'inactivité. Et le taux de non-emploi a augmenté, tandis que pour les seniors, l'inactivité a beaucoup diminué, et le taux de non-emploi a beaucoup diminué, mais il y a eu une progression du chômage de longue durée et du chômage de courte durée. Et si vous regardez également au niveau des niveaux d'instruction, là, c'est très intéressant de voir que la situation est tout à fait différente selon le niveau d'éducation que l'on a, et ceux qui ont un enseignement le plus avancé, donc ceux qui ont suivi l'enseignement supérieur, n'ont à ce moment-là quasiment pas de chômage de longue durée. Il n'y a que du chômage de courte durée. Voilà. Donc c'est une réflexion qui, et je voudrais terminer par justement mettre en avant le cas français. Les maillons faibles, à mon point de vue, donc c'est les jeunes, c'est pour compte. Et que faut-il faire? Eh bien, il faut agir dans énormément de domaines. Au moment où j'ai rédigé l'étude sur la France, j'ai trouvé que les écoles, la seconde chance, c'est vraiment quelque chose de prometteur, et qui, pour l'instant, il y en a moins de 10 000, mais quand il y a 140 000 décrocheurs, je crois, il y a 10 000 écoles de la seconde chance. Pour les décrocheurs, c'est trop peu. Bon, les contrats en alternance, apprentissage, professionnalisation, mais il faudrait surtout les offrir en majorité aux jeunes sans qualification, et pas développer surtout cette possibilité d'être en apprentissage dans une école de commerce ou dans une école d'ingénieur. Bon, parce que ça, en même temps, d'autre part, ça revalorise beaucoup l'apprentissage. Hein, ça donne une meilleure image de l'apprentissage. Alors, les emplois d'avenir, oui, très bien. Le grand problème, c'est que c'est bien ciblé sur les jeunes en grande difficulté. Et on a vu dans tous les pays de l'OCDE que ce sont les jeunes les plus difficiles à aider. Donc, vraiment, ça ne m'étonne pas que ça démarre lentement en France, mais il faut vraiment maintenir ce groupe dans les emplois d'avenir, dans le secteur marchand ou non marchand, mais ça dépend, mais il faut vraiment maintenant mettre l'accent sur ces jeunes laissés pour compte. Et alors, ça, c'est aussi quelque chose qui a énormément étonné dans nos rapports de l'OCDE, c'est qu'on a mis en avant qu'il n'y a que trois pays où il n'y a pas d'aide sociale pour les jeunes de 18 ans, l'Espagne, la France et le Luxembourg. C'est pour ça que dans les autres pays, un jeune sans aide de sa famille, qui est dans la rue, qui n'a pas de qualification, etc., il va au bureau d'aide sociale de son pays et il peut avoir une aide sous condition. Donc, par exemple, au Danemark, s'il n'a pas de qualification de base, il doit retourner dans un système de qualification, d'apprentissage, etc. Donc, c'est pour ça que maintenant, on s'étonne qu'en France, le taux de pauvreté des jeunes augmente. Ce sont les jeunes qui n'ont pas de famille qui puisse les aider. Alors, pour les seniors, donc le grand maillon faible, ce sont les seniors chômeurs de longue durée. Et là, c'est vrai que le contrat de génération, c'est un élément très intéressant parce que ça montre bien la complémentarité entre les jeunes et les âgés. Mais moi, je souhaiterais qu'on mette plus l'accent sur l'embauche des plus de 55 ans plutôt que dans le maintien dans l'emploi qui se fait plus naturellement. Et alors, il faudrait surtout aussi qu'à Pôle emploi, il y ait vraiment maintenant une ouverture, qu'il y ait beaucoup plus d'accompagnement des seniors qui viennent s'inscrire au chômage. Et dès leur premier entretien, on leur propose des aides de retour à l'emploi, comme on le fait, les agents de Pôle emploi essayent de le faire pour les autres chômeurs. Merci. Voilà, de m'avoir écouté.
Très bien, merci beaucoup et merci surtout d'avoir tenu pile poil, 21 minutes, c'est absolument parfait. Et donc là, on a vu une présentation avec en plus des préconisations. Mais ça, c'est systématiquement le travail de l'OCDE. On pourra certainement revenir sur ces préconisations. Donc, comme je vous l'avais annoncé, on passe la parole à Ulrich pour parler cette fois-ci des... Voilà, oui, ça va arriver. Je pense qu'il y aura moins de prescriptions, mais ça sera tout aussi intéressant.
Donc, je voudrais d'abord commencer à remercier Madame Sabon et Madame Succon de m'avoir invitée à cette soirée sur les maillons faibles de la société du travail. Je vais donc parler sur les immigrés et les descendants d'immigrés en France. Et je me base sur plusieurs publications préparées dans le cadre du Secrétariat général à l'immigration et à l'intégration et du Centre d'analyse stratégique et sur une recherche que j'ai faite pour le ministère de l'Intérieur sur les Africains originaires de l'Afrique au sud, sur les immigrés originaires de l'Afrique au sud du Sahara. Les immigrés occupent une place significative sur le marché du travail en France, quel que soit le motif de leur entrée et l'ancienneté de leur présence en France. Ils représentent 9% de la population active, dont les deux tiers originaires des pays hors de l'Union européenne. Ils contribuent pour 8% à peu près à l'emploi. Donc, 2,2 millions d'immigrés actifs sont occupés, et ceci malgré le choc conjoncturel de 2008. Néanmoins, les immigrés restent des populations fragiles, ça on a déjà vu dans la présentation, dans la première présentation. Et cette vulnérabilité touche l'emploi surtout des immigrés originaires des pays tiers, donc à l'extérieur de l'Union européenne. Par contre, les natifs des États membres de l'Union européenne ont des taux de chômage et d'activité qui sont relativement proches de ceux des Français de naissance. Ensuite, on peut parler des femmes immigrées des pays tiers. Ces femmes ont des taux d'activité très faibles au regard de ceux des autochtones, donc des Françaises, et des immigrés de l'espace économique européen. elles sont beaucoup plus exposées au chômage et le taux de chômage atteint plus de 22% en moyenne entre 2004 et 2010, contre un peu plus de 8% pour les femmes non immigrées, donc près de 3 fois moins. Les immigrés femmes et hommes sont en plus beaucoup plus sur des contrats précaires que les Français de naissance et en plus ils travaillent plutôt dans des emplois à temps partiel hein, et souvent subis, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres possibilités. Hein. Et ça concerne en particulier les femmes qui travaillent dans les services. Dans l'intérim, travaillent 3,3% des immigrés contre 2% des actifs non immigrés. Le niveau de diplôme protège moins les immigrés du chômage que les autochtones, donc plus le diplôme est élevé pour les autochtones, ça signifie moins de chômage. Pour les immigrés, c'est pas le cas. Le taux de chômage des immigrés qui sont titulaires de moins une licence universitaire reste 2 fois plus élevé que celui des Français de parents nés français. Donc c'est quand même significatif. Il y a néanmoins un aspect positif. Le risque de chômage décroît avec l'ancienneté de la présence en France. Aussi, l'acquisition de la nationalité française y joue un certain rôle. Pour donner quelques chiffres, le taux de chômage des hommes entrés en France il y a moins d'un an est de 35% et celui des femmes de 67%. D'après l'enquête emploi, pour une période allant, là en bas vous avez les années, allant jusqu'à 5 ans, le taux de chômage atteint ensuite 17% pour les hommes immigrés résidant en France, puis diminue à 14% pour ceux présents plus de 5 ans. La même tendance s'observe aussi pour les femmes, dont les taux de chômage décroissent de 26% à 16% à peu près. Hein. Cette tendance est pas seulement caractéristique de la France, c'est aussi une caractéristique des autres pays de la communauté européenne. Hein. Et ceci devant le contexte du vieillissement de la population, de l'affaiblissement des réserves d'actifs, et donc les immigrés sont sollicités sur le marché du travail bien qu'ils subissent toujours les effets de la crise. En plus, ils occupent des métiers souvent pénibles, par exemple BTP ou à caractère saisonnier, par exemple dans les hôtels, dans la restauration. Et ce sont donc des secteurs qui souffrent de pénurie de main-d'œuvre. Face à la crise, les travailleurs immigrés des pays tiers, donc à l'extérieur de la communauté européenne, ont été davantage découragés et se sont retirés du marché du travail. Le taux d'activité a baissé pendant entre 2008 et 2010, avec un effet moins durable pour les hommes qui ont pu montrer des taux d'activité qui se sont stabilisés dès 2010, contrairement à celui des femmes. Hein. Il est difficile d'en estimer l'ampleur, mais la crise financière et ses conséquences a sans doute eu un effet sur la montée du travail informel. Hein. Ça signifie, côté femmes, l'augmentation des heures supplémentaires non déclarées, la progression de l'emploi dans certains services ou la progression de l'emploi à l'intérieur des ménages, autour des enfants et autour des personnes âgées. Hein. Néanmoins, on doit constater que les actifs immigrés sont employés dans toutes les professions, de celles qui exigent des diplômes plus poussés ou moins qualifiés. Les immigrés sont largement recrutés comme employés non qualifiés ou comme ouvriers et manœuvre. Ils sont donc moins présents que les Français de naissance dans les professions intermédiaires ou dans les professions intellectuelles supérieures et chez les cadres. Ils sont concentrés parmi les ouvriers et les employés. Hein. C'est le cas, pour donner quelques chiffres, pour 62% d'entre eux, les hommes immigrés sont plus souvent ouvriers, tandis que les femmes immigrées occupent majoritairement des postes d'employés non qualifiés, surtout dans les services aux particuliers. À Paris, vous voyez les nounous africaines qui s'occupent des enfants, par exemple. En fonction des origines, il y a aussi des différences. Les natifs de Turquie, du Portugal et du Maroc se trouvent souvent parmi les ouvriers, mais les immigrés originaires d'Afrique subsaharienne se trouvent beaucoup plus dans les services. Hein. Je vais y revenir, on va voir les raisons. En ce qui concerne les ressortissants de l'Union européenne, il y a, à l'exception des Portugais, des Espagnols et des Italiens, ils font souvent partie des professions intermédiaires et supérieures. J'avais déjà dit, leur situation se rapproche de celle des Français des Français de naissance. Les immigrés sont aussi fréquemment artisans, commerçants ou chefs d'entreprise, étant donné que l'accès à ces activités est plus facile et ils ne sont pas forcément exposés à ce moment-là aux discriminations au travail qui sont de l'eau des diplômés. Hein. Les travailleurs immigrés sont donc surreprésentés dans le travail indépendant et ça se trouve également dans les autres pays de l'Union européenne, en Belgique, dans les pays nordiques, en Europe centrale et orientale. Hein. Le travail indépendant constitue un moyen d'éviter ou de surmonter les difficultés des immigrés à l'entrée sur le marché du travail. Hein. Par exemple, le capital social qui leur fait défaut hein, à l'intérieur de la famille, hein, par exemple, pour faciliter l'emploi. Ou pour d'autres, les difficultés linguistiques pour les Asiatiques, par exemple, ou encore les problèmes de reconnaissance des diplômes pour les États de l'Est de l'Europe. Il existe aussi des créneaux ethniques, mais c'est beaucoup moins développé en France que dans d'autres pays de l'Union européenne. De nombreux immigrés créent des petites entreprises dans le bâtiment ou la confection, et en particulier les immigrés venus de Turquie s'intéressent à la couture. Les originaires d'Asie, vous connaissez tous les restaurants des Chinois, des Vietnamiens ici, ou de Tunisie, ils se focalisent sur le commerce de détail alimentaire. Et donc, ces groupes-là sont plus nombreux à être devenus indépendants. Pour revenir peut-être, il faut quand même dire, là aussi, à ce moment-là, ça peut être aussi une sélection parmi ces groupes que les plus... par exemple, dans mes travaux sur les Africains, j'ai constaté qu'il y avait des diplômés qui ouvraient des magasins ou des boutiques hein, et ils avaient des difficultés de s'insérer sur le marché de l'emploi et donc du coup, il y avait une ouverture à cet endroit-là et une barrière dans le métier qu'ils avaient appris peut-être à l'université. Hein. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer que les immigrés, ou qu'une grande partie des immigrés en France sont faiblement qualifiés. Hein. Il y a eu, à partir des années 80, une hausse des qualifications, parce qu'à partir des années 80, c'était beaucoup plus des immigrés qui venaient des zones urbaines et pas des zones rurales, comme dans les années 60-70. Hein. Et donc là, on trouve des proportions significatives d'ingénieurs ou de cadres techniques de l'industrie. On trouve des informaticiens, on trouve des médecins. Et souvent, ces accès au territoire français sont réglés par des traités bilatéraux entre les différents pays, hein, qui facilitent. Et souvent, ce sont des secteurs en France où la main d'œuvre est manquante. Hein. Par exemple, les médecins de l'Afrique au sud du Sahara, ils viennent, il y a une pénurie, ou des infirmiers, hein, infirmières. Hein. Et donc, là, les pays européens rivalisent et attirent ces personnes qualifiées. Hein. Donc là, il y a quand même, depuis quelques années, il y a aussi une migration très qualifiée, surtout des hommes qui se manifestent. Les principaux métiers occupés par les immigrés restent pourtant les métiers d'ouvriers et d'employés. On trouve les immigrés dans les métiers du bâtiment, travaux publics. Pas seulement comme ouvrier, mais aussi comme technicien, comme cadre, comme maçon, comme peintre ou des ouvriers des travaux publics. On trouve des ouvriers industriels qualifiés ou non qualifiés, les conducteurs de véhicules, les ouvriers de la manutention, les employés, et là on passe aux femmes aussi, les employés de service aux personnes, donc employés de maison, aides à domicile ou assistantes maternelles. Les immigrés, si on passe aux femmes immigrées, hein, elles se sont spécialisées dans les services à la personne. Elles travaillent comme employées de maison, comme assistantes maternelles, comme aides à domicile ou aides ménagères. Et cette spécialisation est liée au vieillissement de la population et aussi à la bi-activité des couples. Les femmes qui travaillent ont des enfants, peut-être, si en France, on va en parler. Hein. Et donc, du coup, ces femmes immigrées s'occupent du ménage ou des enfants à la maison et des charges la femme française qui peut exercer son métier. Les employés de maison se recrutent majoritairement chez les femmes portugaises, mais aussi auprès des des originaires des Philippines, des Cap-Verdiennes, des Mauriciennes. Hein. Ce sont des métiers où également les femmes d'origine africaine sont extrêmement présentes. Et pour nommer quelques nationalités, les femmes de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert, les natifs d'Algérie et de la Tunisie sont plutôt assistantes maternelles, donc ont quand même un niveau un peu élevé. Hein. Et les actives portugaises, algériennes et marocaines constituent la moitié des femmes actives immigrées dans ces métiers. Hein. Dans les métiers de nettoyage, donc agents d'entretien, souvent pour des sociétés, il y a une part importante des femmes originaires d'Afrique, de l'Afrique subsaharienne, mais aussi de Haïti. Il y a les Maliennes, les Sénégalaises, qui sont des agents d'entretien et exercent donc des tâches très pénibles. En ce qui concerne les hommes, ils s'occupent, ils trouvent un emploi en tant qu'agents de gardiennage et de sécurité. Et ça peut être des femmes portugaises qui s'occupent, par exemple, en tant que gardiennes des immeubles. Mais les hommes qui travaillent dans ce métier, ce sont souvent des Sénégalais, Maliens, Ivoiriens et des deux Congos. Qui s'occupent du gardiennage et de sécurité. Hein. Si vous allez dans les Monoprix, par exemple, vous allez les rencontrer. Hein. C'est vraiment très manifeste. Hein. En ce qui concerne une autre origine, la Chine. Les hommes originaires de la Chine et les femmes sont concentrés dans d'autres secteurs. Hein. Ils travaillent dans l'hôtellerie, restauration, le commerce et la confection. Une femme immigrée chinoise sur 6 exerce le métier d'employé de l'hôtellerie, restauration. Et près d'un homme originaire de Chine sur 5 est cuisinier. Dans le commerce, il y a des actives chinoises qui sont vendeuses. Les hommes peuvent également être vendeurs, salariés, hein, mais ils peuvent aussi être à leur compte ou salariés dans le commerce de gros. Hein. Donc, vous voyez, là, on va vraiment des groupes différenciés en fonction de l'activité. Hein. Cette spécialisation dans l'hôtellerie, la confection et la vente traduit donc l'existence des réseaux qui fonctionnent, hein, qui orientent les originaires de ces régions hein, vers la diaspora, vers des activités ces entreprises, ces entités qui appartiennent aux originaires de cette région. Peut-être pour conclure, quelques conclusions de mon étude sur les travailleurs étrangers ou immigrés originaires de l'Afrique subsaharienne. J'avais constaté même pour la deuxième génération que les jeunes d'origine africaine ont aussi des parcours d'insertion difficiles. Hein. Là, on l'a entendu déjà en partie. Hein. Ils sont employés comme leurs parents à des niveaux peu qualifiés et sont embauchés sur des contrats courts et non en CDI, comme leurs homologues ayant des parents français. Hein. Le problème est souvent aussi les parents d'origine africaine, par exemple, dans mon étude, ne peuvent pas mobiliser autant de ressources parce qu'ils sont plus souvent éventuellement inactifs ou employés dans des métiers à faible salaire et ont peut-être aussi le statut d'ouvrier. Hein. Donc, du coup, on trouve parmi ces catégories des déclassements professionnels et sociaux. Hein. On trouve une certaine discrimination à l'embauche et de leur côté aussi un fort ressentiment de sous-utilisation des compétences éventuellement acquises dans les universités. Hein. Il y a, comme j'avais déjà évoqué, les entrepreneurs des différents groupes recrutent aussi en partie ces jeunes dans leurs entreprises acceptent des horaires de travail moins élevés hein, et des horaires de travail plus pénibles et donc... Si vous voulez, en force terminée, je dirais ces étrangers, étrangères ou immigrés sont soumis, comme les autochtones, aux lois du marché capitaliste qui déterminent leurs pratiques économiques. Et les réactions de ces groupes s'expliquent par une situation sociale et économique similaire qui va au-delà des frontières de l'appartenance de la communauté d'origine. Je vous remercie pour votre attention.